Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur Mistral, Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous sommes un groupe d'étudiantes qui allons vous parler de sujets très croustillants, les anecdotes de films. Donc, j'ai avec moi trois étudiantes. Ève.
Bonjour.
Bérénice.
Bonjour.
En face de moi. Et Calissa à ma droite.
Et bonjour.
Ça croustille par ici.
Tu manges une chips ?
Non, c'est les anecdotes qui sont croustillantes.
Les anecdotes de films
qui croustillent.
On se retrouve juste après la première musique. Essayez de deviner ce que c'est.
Shape of my heart.
Oui, on est sur Fréquence Mistral à Digne-les-Bains. On va parler d'anecdotes croustillantes sur les films. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'était la chanson de Shape of My Heart de la BO de Léon. Et d'ailleurs, je crois que Bérénice a quelque chose à nous raconter d'assez sympa sur nous.
Oui, effectivement. Ce film alors, est le sixième long métrage de Luc Besson, qui est sorti en 1994. Il retrace la vie d'un tueur à gages solitaire dont le prénom est Léon. Il est joué par Jean Reno. Jean Reno, donc Léon, vit à New York et à cause d'un concours de circonstances, il va devoir héberger puis aider Mathilda, l'une de ses voisines de palier, âgée de 12 ans et orpheline, qui est jouée par Nathalie Portman.
Ah oui, je connais.
Alors, il a eu un énorme succès autant en France qu'aux États-Unis. Et est-ce que, à votre avis, il rapporte combien en dollars aux États-Unis?
Alors, comme il a eu un énorme succès, j'aurais dit 1 milliard, mais c'est peut-être un peu...
Oula.
Moi, j'aurais plutôt dit des millions.
Des millions, ouais.
Ouais, j'aurais dit 400 millions.
500 millions, ouais, ouais, t'es proche.
C'est vrai.
C'est 19 millions 250.
Je suis pas si proche de ça.
T'es encore plus loin.
Mais c'est gentil.
Mais voilà. Du coup, l'anecdote, c'est que lors d'une scène en extérieur, nécessitant beaucoup de policiers, un homme va s'inviter sur le tournage. Est-ce que vous sauriez pourquoi?
Alors, je n'ai aucune idée. C'était dans un appartement, dans une maison?
Oui, c'était en face de l'appartement donc de Léon dans le film.
Il s'est introduit sur le tournage.
C'est ça.
Non, je ne sais pas.
Bon, vous n'avez pas l'air de savoir. En fait, c'était un homme qui était en fuite parce qu'il sortait d'un commerce qui venait de cambrioler. Et il a atterri au milieu de tournage en courant. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé?
Aucune idée.
Aucune idée.
Alors en fait, il était tellement surpris par un nombre hyper important des déploiements de police qu'il s'est rendu spontanément aux forces de l'ordre.
C'est pas vrai.
Mais ne sachant pas que c'était en fait des figurants qui étaient déguisés en policiers.
Oh, mais c'est excellent.
Et en fait, ce qui est encore plus excellent, c'est que l'histoire ne dit pas si Luc Besson lui a révélé la supercherie et donc l'a laissé partir, rentrer chez lui, ou si... c'est la police qui est venue, la véritable police, et s'est chargée de son cas.
Oh, incroyable, d'accord. Eh bien, écoute, c'est extrêmement intéressant, je ne savais pas du tout. J'ai regardé le film il n'y a pas longtemps, mais c'est assez drôle. Je crois que Calista aussi, tu avais une petite anecdote assez croustillante à nous raconter.
Une petite anecdote croustillante, mais un peu triste quand même. Alors, je vais vous parler d'un film réalisé par un Britannique du XXe siècle que certains nomment le maître du suspense. Il a réalisé de nombreux films, dont Les 39 marches, Sueur froide, La mort aux trousses, Psychose ou encore Les oiseaux. C'est un réalisateur considéré comme étant le pionnier du genre cinématographique du thriller et qui aime faire des apparitions furtives dans ses films que l'on appelle caméo. Est-ce que vous savez de quel réalisateur je parle ?
Non,
j'ai aucune connaissance du réalisateur.
Ok, si je vous dis Alfred, peut-être que
Hitchcock.
Oui, ouais. C'est bien Alfred Hitchcock. Et nous allons ici nous attarder sur son thriller Les oiseaux, sorti en 1963. Dans ce film, inspiré d'une nouvelle de Daphné de Maurière, donc des oiseaux de plusieurs espèces différentes, moineaux, corbeaux, mouettes, s'attaquent inexplicablement aux habitants d'une petite ville de Californie jusqu'à les tuer. Le spectateur est plongé dans une ambiance oppressante du début à la fin du film et le réalisateur joue avec les émotions du public en ne faisant apparaître les oiseaux que petit à petit pour rendre le spectateur aux aguets d'une potentielle attaque. Alors la question qu'on se pose, c'est comment le réalisateur a-t-il fait pour tourner des scènes avec tous ces oiseaux? Est-ce que vous avez une idée s'il a pris des vrais oiseaux? Faux oiseaux.
Ouais, je pense qu'il a dû dresser des oiseaux, non ?
Ouais.
Ouais, apprivoiser des oiseaux, peut-être, okay. Grâce à peut-être dans un zoo, je sais pas.
Ok, et ben, alors, il a fait ça en effet, mais au début, il était parti pour prendre de faux oiseaux mécaniques. Il dépensa d'ailleurs 200 000 dollars pour cela. Mais finalement, les membres de l'équipe technique, trouvant ces oiseaux trop peu réalistes, ont convaincu Hitchcock de changer d'avis et de changer de moyens. Et donc de trouver une autre méthode pour faire apparaître ces oiseaux à l'écran. Donc il a bien pris des vrais oiseaux. Et est-ce que vous savez combien d'oiseaux ont été dressés pour ce film?
200, je dirais.
Ouais.
Pour le film, je ne l'ai pas vu, mais je dirais un chiffre au hasard, peut-être 350.
Ok. Eh ben, Eve, toi, tu as une petite idée?
Vraiment, je ne sais pas du tout. Je sais pas, une centaine.
Ok, ben, c'est un peu plus. C'est 3200 oiseaux.
Ah ouais, là,
ouais,
ouais.
C'est énorme.
D'accord.
Donc, un gros budget aussi. L'équipe a également fait usage d'effets spéciaux, parce que pour certaines scènes, c'était trop compliqué de prendre de vrais oiseaux. Et ils ont également réalisé des superpositions de pellicules, donnant l'impression qu'une nuée d'oiseaux s'abat sur les victimes. Mmh. Enfin, certaines scènes trop compliquées à mettre en place avec de vrais oiseaux ont quand même utilisé les fameux faux oiseaux mécaniques du début. Ainsi, c'est l'association de toutes ces techniques qui a permis de tromper et manipuler le spectateur et de rendre les scènes plus réalistes. Alors, dans ce film, l'actrice Tippi Hedren, qui joue un des deux personnages principaux, a vécu un tournage particulièrement éprouvant et traumatisant, notamment lors d'une scène qui se déroule dans un grenier où le personnage joué par l'actrice se fait attaquer par les oiseaux. Et pour cette scène, de vrais oiseaux sont utilisés et le tournage dura une semaine entière. Donc une semaine entière, pendant une semaine, l'actrice s'est fait attaquer par des oiseaux. Donc c'était un petit peu traumatisant.
Ah bah, j'imagine bien, ouais.
Même si ces oiseaux, ils sont bien sûr dressés pour ne pas attaquer réellement l'actrice. Mais le dernier jour du tournage, les membres de l'équipe technique ont attaché exprès aux vêtements de l'actrice des fils transparents pour accentuer l'effet d'attaque. Et, et donc même s'ils sont dressés donc pour ne pas attaquer réellement, un des oiseaux a quand même fini par érafler le coin de l'œil de l'actrice.
Ça, et c'est donc, très dangereux.
Ouais, ouais, très ouais. dangereux. Donc elle a fini à l'hôpital pendant 5 jours.
Mince.
Ah ouais.
Ah voilà. Ouais. Avec une paupière complètement éraflée. Et donc ce n'est pas le seul film dans lequel Hitchcock en demande énormément d'un point de vue physique et émotionnel à ses acteurs. En effet, dans Psychose, le réalisateur plaça volontairement un corps momifié dans la penderie de l'actrice Janet Leigh, qui, bien évidemment, en l'ouvrant, poussa un hurlement de terreur. Et c'est ce que voulait Hitchcock, donc il était satisfait.
Eh ben, super.
Ouais, super.
Charmant réalisateur.
Voilà.
D'accord.
J'ai trop envie de jouer avec lui. Quoi.
Ouais, c'est
pas
clair.
Trop, pas trop.
D'accord. Et ben, écoute, c'est extrêmement intéressant. C'est un petit peu tumultueux quand même. J'aimerais
peu, ouais.
pas jouer dans un de ces films.
Non.
mais bon, d'accord, pourquoi pas. Eve, tu as une petite anecdote à nous raconter ?
Oui. Alors moi, je vais vous parler d'un film d'horreur. C'est Poltergeist, mm-hmm. qui a été réalisé par Tobe Hooper et coécrit et coproduit par Steven Spielberg. Il est sorti en 1982 et pour résumer un peu, c'est une famille, la famille Freeling, qui vit dans la ville de Cuesta Verde et dont la maison devient le théâtre de phénomènes étranges, paranormaux. Lorsqu'une nuit, la petite dernière de la famille, Caroline, disparaît et elle va communiquer avec ses parents à travers de la télévision. Et il y a quelques anecdotes sur ce film, notamment sur la réalisation. Parce que c'était une idée de Steven Spielberg qui voulait réaliser Poltergeist, mais il avait une clause dans son contrat pour E.T. qui l'empêchait de tourner un autre film en même temps que E.T. Donc c'est pourquoi il a été réalisé par Tobe Hooper.
D'accord.
Sinon, dans ce film, il y a une scène qui est assez connue dans une piscine et qui met en scène des squelettes. Et la production a décidé d'utiliser de vrais squelettes humains pour cette scène. Et à votre avis, pourquoi ils ont décidé d'utiliser des vrais squelettes ?
Parce que c'est un film d'horreur.
Oui, mais c'est pas que pour ça.
C'est vrai ?
Pour que ce soit plus réaliste, peut-être ?
Ouais. Ben, en fait, c'est un choix économique.
Ah.
Et en fait, c'était moins cher d'acheter de véritables squelettes que des faux. Et les faux squelettes avaient besoin de plus de préparation.
Mais t'achètes ça où, des vrais squelettes?
Alors, ça, je sais pas du tout, mais...
Dans voilà. Les morgues, peut-être.
Merci, Bérénice.
Et sinon, dans une autre scène, Oliver Robbins, qui interprète le frère de Caroline, il est attaqué par une marionnette de clown. Mais lors du tournage, cette marionnette a subi un dysfonctionnement qui a étranglé réellement le petit garçon.
Wow.
Et en fait, c'est Steven Spielberg qui s'est rendu compte de ça lorsqu'il a vu devenir bleu.
Ah oui, c'est un peu inquiétant.
Et il a réussi à le sauver du coup, mais voilà.
Ok, incroyable. Super. Et ben, c'est tout aussi gai que celle de Calista. Écoutez, on va écouter une autre musique. J'espère que vous reconnaîtrez la BO parce que c'est extrêmement connu. On se retrouve tout de suite. Sur Fréquence Mistral à Digne-les-Bains et on parle d'anecdotes de films. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'était bel et bien la BO de Star Wars et plus particulièrement Star Wars 4. Calista, est-ce que tu as une anecdote par rapport à Star Wars 4 ?
J'ai une petite anecdote sur Star Wars 4. Alors dis-nous tout. Avant de commencer, cette musique, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais cette musique s'est passée, enfin, a été. Mise dans le film,
ouais.
Lorsque Luke Skywalker et C-3PO entrent dans un bar rempli de créatures extraterrestres qui font la fête. Alors, elle est intitulée Cantina Band. Cette musique est réalisée par John Williams. Et donc, le quatrième volet, qui est en réalité le premier réalisé,
oui,
il est sorti en 1977. Et est-ce que vous savez par qui il a été réalisé, ce premier volet?
Bérénice, je crois qu'elle est plus forte que nous pour les noms des réalisateurs.
Alors, dis-nous si tout. Dis le prénom peut-être, George.
George Armani.
C'est George Lucas. Et donc, d'accord. En quelques phrases, j'imagine que tout le monde connaît donc le monde de Star Wars. Mm-hmm. C'est un univers mondialement connu, ayant eu lieu il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine et dans laquelle deux puissances capables de maîtriser la force s'affrontent. Est-ce que vous savez ce que c'est la force et comment on la maîtrise ?
Voilà, c'est pas genre dans tout sens, c'est inné ?
Eh ben oui, c'est un peu inné. En fait, c'est un champ, une sorte de champ électromagnétique que tu peux ou tu ne peux pas manier. Et donc, d'un côté, on a les chevaliers Jedi qui maîtrisent le côté lumineux de cette force et voulant maintenir
c'est
la paix.
C'est les bleus.
Ouais, les bleus. Et donc, eux, ils veulent maintenir la paix dans la galaxie. Et de l'autre côté, on a les seigneurs. Est-ce que vous savez leur nom ?
Des ténèbres. Ah non, je confonds avec Harry Potter.
C'est les seigneurs Sith. Et eux, ils sont guidés par la haine et l'envie de dominer la galaxie. Et donc, ils glissent ainsi du côté obscur de la Force. Donc, concernant l'anecdote, je vais vous parler donc, d'une habitude assez inattendue qu'a prise l'acteur Peter Cushing lors du tournage de ce quatrième volet.
Il joue qui, alors, Peter ?
Qui est-ce qu'il joue ? Il joue le grand Moff Tarkin. Je ne sais pas si je prononce bien, mais...
Est-ce que c'est la grosse bête un petit peu gluante qui fume tout le temps ?
Non, c'est pas ce personnage-là.
C'est un des soldats ?
Oui, c'est ça. C'est celui qui a été promu au grade militaire suprême aux côtés de Dark Vador. Donc, il fait partie des seigneurs Sith. Et donc, c'est lui qui est à la tête de la construction de l'arme secrète, l'étoile noire.
Ah, oui,
cool. Ouais. Et donc, Peter avait l'habitude donc, de porter un accessoire vestimentaire assez particulier lors des tournages, mais qui ne se voit finalement pas à l'écran. Est-ce que vous savez ce qu'est cet accessoire vestimentaire ?
Des bas de contention.
Ça se rapproche, mais c'est
vrai.
Un slip léopard.
C'est dans la même zone corporelle.
<Sympa. rire>
Non, c'était des pantoufles roses que l'acteur du grand Moff Tarkin portait quasiment à chaque tournage. Et donc, dans ce quatrième volet. Et pour cause, les bottes de son costume étaient particulièrement désagréables à porter. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de porter ses pantoufles roses. Et donc, je trouve ça assez rigolo, son rôle est assez sombre et ténébreux. Ouais.
Je l'imagine bien sur le plateau avec ses petites pantoufles, son petit café.
Très à l'aise.
C'est super drôle. Ouais. Ok. Écoute, Eve, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter ?
Alors oui, ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais...
Pas de pantoufles roses ?
Non, pas du tout. C'est Le Magicien d'Oz.
Ah oui.
Donc, c'est un film musical américain qui a été réalisé par Victor Fleming et qui est adapté du roman du même nom. Il est sorti en 1939, donc c'est un assez vieux film. Et en petit résumé, c'est l'histoire de Dorothée, qui est une jeune orpheline qui vit chez son oncle et sa tante. Et elle fait un rêve où elle se retrouve dans le monde magique des Munchkins à la recherche de son chien. Et pour le retrouver, elle doit s'emparer des chaussures de la méchante fée.
Ah, il y a quand même une histoire de chaussures, hein.
Ah oui, c'est vrai. Mais elles sont rouges. Elles sont pas roses.
Ok.
Et c'est la méchante fée qui menace les Munchkins, et après, elle doit aller voir le magicien d'Oz dans son palais. Et donc, ce film a été l'objet de beaucoup d'anecdotes sur le tournage. Donc, je vous en ai sélectionné quelques-unes. Et par exemple, pendant une scène où la sorcière s'échappe du monde des Munchkins dans une bouffée de fumée, la pyrotechnie a été activée trop tôt, mettant feu au chapeau, au balai et au maquillage de l'actrice qui se retrouvera sévèrement brûlée.
Ah mince.
Et à votre avis, que s'est-il passé par la suite ?
J'ai appelé les pompiers.
Ouais, c'est ce que j'aurais pensé aussi.
on lui a peut-être jeté un gros seau d'eau dans la tête. Ça doit pas être très agréable, mais au moins ça
a été déjà, vu que son maquillage était fait de cuivre, il avait du mal à partir, et donc ils ont dû lui retirer avec de l'alcool. Et lorsqu'elle est revenue sur le plateau, la production lui a demandé de tourner une autre scène avec de la pyrotechnie, ce qu'elle a évidemment refusé.
Et donc
c'est sa doublure qui l'a filmé à sa place. Mais elle a subi exactement le même sort et elle a été grièvement brûlée aussi.
La pyrotechnie, c'est...
J'espère qu'ils en avaient une troisième actrice. Jamais 203.
Sinon, toujours dans le maquillage, pour l'interprète de l'homme de fer, Buddy Ebsen, il a dû porter pour son personnage un maquillage à base d'aluminium. Et... lorsqu'un soir, il a éprouvé des difficultés à respirer, il a été envoyé directement à l'hôpital. Et il se trouve qu'il avait les poumons remplis d'aluminium, après en avoir inhalé à cause du maquillage. Wow. Donc le départ de l'acteur a été mis sous silence, et l'acteur qui l'a remplacé a, lui, subi une infection oculaire à cause du maquillage qui était aussi l'aluminium.
Génial.
D'accord, super bon.
Aïe, aïe, aïe.
Sinon, chaque matin, le maquillage des acteurs prenait 3 heures à être fait. Et donc, les producteurs leur interdisaient de retirer leur costume ou leur maquillage de la journée afin de ne pas perdre de temps.
Oh voilà.
Voilà, donc il ce devait garder sentir pas très bon.
Compréhensible.
Ensuite, dans une scène, Dorothée est réveillée par de la neige. À votre avis, en quoi était faite cette neige? C'est encore petit indice, c'est pas très bon pour la santé.
Ah, polystyrène. Polystyrène, ah, non. Oui.
Ouais. Non. En fait, c'était de l'amiante.
Oh non.
Ah ouais. Ouais, voilà.
Super. Il y en a qui sont des génies.
Il a dû avoir un cancer après.
Ouais,
ouais, d'accord. Aujourd'hui, ça serait plus autorisé. Ouais. Hein,
heureusement.
Oui, heureusement.
Sinon, sur une note plus joyeuse, sur le tournage, un costumier a été chargé de trouver une veste pour le magicien d'Oz. Il s'est donc rendu dans une friperie et il a trouvé une veste idéale pour ce rôle. Et lorsque l'acteur qui interprète le magicien l'a essayé, il a trouvé dans une des poches une étiquette avec le nom de l'auteur du livre du magicien d'Oz.
Incroyable.
Et donc la veste, en fait, lui appartenait...
Et comment ils ont su ça?
C'est la femme de l'auteur du livre qui a confirmé par la suite que ça appartenait à son mari.
C'est incroyable. Le hasard,
ouais. C'est très
bien qu'il pense aussi à la seconde main.
C'est ça.
Très fier d'eux. Il pense à la planète. D'accord. Ok. Bah, super, je ne savais pas du tout ça. Bérénice, à toi.
Oui. Alors, moi, je vais vous parler de 40 ans toujours puceau. C'est un film qui vient des États-Unis et qui a lancé la carrière cinématographique de Steve Carell et de Seth Rogen. Il est sorti en 2005 et il aborde, du coup, le thème de la virginité avec une légèreté et humour. Donc, en fait, c'est l'histoire de Andy Stitzer, qui est chef d'inventaire au magasin d'électronique Smarttech. Il a 40 ans, il vit seul, il est fan de figurines et de comics, il joue du tuba et aux jeux vidéo. Alors, il va faire une soirée avec ses collègues et ils vont apprendre que Andy est puceau. Donc, ils le prennent alors en affection et décident de l'aider à se dépuceler.
Super.
Et donc, en fait, l'anecdote, c'est que l'une des scènes est une séquence d'épilation. Et ce fut un calvaire pour Steve Carell. Pourquoi, à votre avis?
Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait pas de cire.
Moi, je pense qu'il s'est fait réellement épiler.
Ouais,
et que c'était du live, non?
C'est ça. Il faut savoir qu'il a quand même des poils partout sur le torse. Hein. Et en fait, lui, c'est lui qui a décidé que par souci de crédibilité, il voulait que ça se fasse réellement, qu'il se fasse réellement épiler. Donc il a demandé au réalisateur. Du coup, selon l'acteur, je le cite, « Cela n'aurait pas été si drôle et authentique avec un effet spécial. » Et donc, pour s'assurer la prise juste, il y a 5 caméras qui ont été installées pour filmer l'incontournable séquence. Nul subterfuge technique ni doublure, donc. Mais bel et bien un acteur avec une véritable souffrance qui, par la suite, décrit l'expérience comme une véritable torture.
J'imagine bien, ça fait pas du bien, c'est clair.
On le cite encore, « Ma peau est devenue incroyablement rouge et on peut voir avec le zoom le sang apparaître à la surface. »
Super.
Incroyable.
C'est pas mal.
Il y a pire dans ça. Une vérité plus sombre explique les temps de souffrance de l'acteur. Alors, à votre avis, laquelle...
J'en ai je aucune sais pas. Idée.
Non.
Non,
je sais pas.
Non.
En fait, Miki Mia... qui jouait l'épilatrice, ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. Elle travaillait pourtant en parallèle des tournages dans un salon de beauté, le salon de beauté de sa tante. Et Miki Mia a tout bonnement oublié d'appliquer une couche protectrice de vaseline sur le torse de Carell avant de le badigeonner de cire et de retirer les bandes. Donc la douleur était donc tellement intense, qu'à la normale, quoi. Et donc, heureusement qu'un membre de l'équipe l'a interrompu avant que le calvaire continue.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, filmé, je pense qu'il s'en souviendra
pendant
très longtemps.
Sur YouTube, il y a la scène.
Ouais,
c'est impressionnant et ça fait beaucoup rire.
Ok, 40 ans toujours puceau. Petit extrait d'épilation, il n'y a pas de souci. Écoutez, on va relancer une musique, on se retrouve juste après. Encore une fois, devinez de quel film cela vient et on se retrouve tout de suite.
got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Son, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got troubles, then I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe. But none of them will ever love you the way I do. Just me and you, babe. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You got a friend in me. You just remember what your old pal said. Son, you got a friend in me. We stick together, we can see it through. 'Cause you've got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe. But none of them will ever love you the way I do. Just me and you, babe. And as the years go by, friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah.
On est sur Fréquence Mistral 99.3 à Digne-les-Bains. Je suis avec Eve, Calista et Bérénice et on parle d'anecdotes de films. Est-ce que quelqu'un a encore une anecdote en réserve ?
Alors, moi j'ai une anecdote. Du coup, est-ce que vous avez reconnu le film qui correspond à cette musique ?
Je crois.
Moi je l'ai aussi.
Moi je l'ai pas.
Aïe. Alors, ce serait quoi ?
C'est Toy Story. Ouais.
Et oui. Alors, je pense que c'est l'anecdote la plus croustillante que j'ai dans mon tiroir. Donc, c'est sur Toy Story 2. Et donc, c'est le film d'animation Disney Pixar qui est sorti en 1999. Et l'anecdote, c'est que lors de la production du film, en 1998, quand le film s'apprêtait à sortir et que les derniers montages étaient en cours, un employé de Pixar a tapé une mauvaise ligne de code. Donc c'est un code qui ordonne au système de supprimer tous les fichiers situés sur le répertoire actuel.
Oula, ouais.
Il a tapé cette ligne au niveau racine du film, entraînant la suppression progressive des données. Malheureusement, les fichiers de sauvegarde n'avaient pas fonctionné au cours du mois précédent. Donc, à votre avis, que s'est-il passé après ?
Oh là là, ils ont du coup tout été ruinés.
Ouais.
Sachant que c'était le 2, on est d'accord.
Toutes les scènes, ouais, en fait.
Ouais. Donc le Toy Story 1 a été vraiment un succès fou, et ils ont effacé le 2. Et ben, ils ont dû tout reprendre, peut-être ?
Eh ben, non. Parce que, heureusement, une employée qui avait une copie pour pouvoir travailler de chez elle lors de son congé maternité, elle possédait une sauvegarde qui datait de 2 semaines avant la suppression. Donc le film a donc pu être récupéré, mais il a quand même subi de grosses modifications parce qu'il avait été rejeté par les patrons qui le trouvaient pas assez bon. Du coup, il a quand même dû être changé à la fin.
D'accord.
Ah ouais.
Bon, moi j'ai adoré Toy Story 2, hein, personnellement. ça a marqué mon enfance, j'ai adoré.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et ben, heureusement qu'il y avait cette bonne femme qui était...
ouais, heureusement.
qui travaillait de chez elle. D'accord. Et j'ai Apocalypse Now. Bérénice, yes. À toi.
Alors, encore un film américain. Donc, c'est réalisé par Francis Ford Coppola. Mm-hmm. Il est sorti en 1979. Donc, en fait, c'est une adaptation du roman « Au cœur des ténèbres », « Heart of Darkness », de Joseph Conrad, datant de 1899. Il se déroule pendant la guerre du Vietnam. Et donc, les services secrets de l'armée américaine confient au capitaine Villard la mission de retrouver et d'exécuter le colonel Kurtz, car ses méthodes sont jugées malsaines. Effectivement, il se trouve au-delà de la frontière avec le Cambodge. Il a pris la tête d'un groupe ethnique du pays et il mène des opérations contre ennemis sauvages, voire terrifiantes. Et donc, en fait, l'anecdote dont je vais vous parler, c'est au sujet il a été tourné, en fait, en grande partie aux Philippines. Mm-hmm. Et donc, il a bénéficié d'aide logistique du dictateur Ferdinand Marcos, qui dirigeait alors le pays, et notamment des hélicoptères de l'armée philippine. Mm-hmm. Et à votre avis, à quoi servaient ces appareils, mis à part pour le tournage ?
Peut-être la force militaire des Philippines.
Ouais, j'aurais dit ça aussi.
Ouais, en fait, c'est à peu près ça. Ils servaient en fait à combattre les groupes rebelles hostiles au pouvoir en place. Mm-hmm. Donc, il se trouvait que lors du tournage, des fois, les hélicoptères disparaissaient assez régulièrement. Et ils étaient dirigés aussi par des pilotes inconnus de l'équipe de film, ce qui devait, à mon avis, faire un petit peu peur aux réalisateurs. Voilà, ça sera tout. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'anecdotes sur Apocalypse Now que vous pouvez trouver facilement sur Internet. C'est vraiment un film un petit peu dit catastrophe, parce qu'il y a eu énormément d'anecdotes toutes autant choquantes que les autres. Si je peux dire rapidement, il y a eu une crise cardiaque d'un des acteurs qui a été caché par le réalisateur au producteur. Il y a aussi, ils ont subi un ouragan et plein de choses encore.
D'accord, donc il est mort.
Je suppose.
Ok.
Waouh.
Super rassurant. Ok, alors c'est à moi de vous parler d'une anecdote que j'ai encore dans mon tiroir. Je vais vous parler du film Will Hunting. Est-ce que vous le connaissez ?
Pas du tout.
Pas non. Du tout, non.
C'est un assez vieux film américain réalisé par Gus Van Sant. Il est sorti en 1998. Et donc dans ce film, l'acteur Matt Damon, que vous connaissez peut-être,
quand même.
il joue un jeune surdoué et autodidacte, Will Hunting. Et ce dernier a eu une enfance difficile avec un beau-père qui le maltraitait. Donc il grandit dans la violence et il accumule les délits avec sa bande d'amis. Ayant arrêté les études très tôt, il est employé en tant que concierge et balayeur dans le Massachusetts Institute of Technology. Et un jour, un professeur de l'université le surprend en train de résoudre une équation mathématique particulièrement difficile. Dans les mêmes temps, Will frappe un policier et risque d'aller en prison. Mais donc à la demande du professeur qu'il a trouvé du coup en train de résoudre cette équation, qui voit donc en Will un génie prometteur, le juge accepte la demande du professeur Lambeau de mettre en suspens cette peine si Will travaille pour ce professeur, à la condition qu'il soit suivi par un psychologue. Et donc ainsi, Will va voir un psychologue assez régulièrement avec qui il va avoir une relation de confiance. Et ce docteur, c'est le docteur Sean Maguire, interprété par Robin Williams. Peut-être que
oui,
vous le connaissez aussi.
Évidemment, okay. C'est très connu.
Et donc, l'anecdote dont je vais vous parler se déroule pendant une scène dans le cabinet de ce docteur Sean Maguire. Will disait au docteur qu'il avait peur de continuer la relation avec sa copine, redoutant qu'il se mette à voir ses imperfections, alors que jusqu'ici, il l'a trouvée parfaite. Est-ce que vous savez quelle a été la réponse de Robin Williams, qui est, je le précise, un véritable maître des blagues improvisées ? Donc là, c'était pas du tout sur le script. Vous avez une petite idée?
Non, ou... pas, non pas, pas du tout. C'est vrai que... Il a dû le prendre avec humour, j'imagine.
Oui, exactement. Donc, en fait, il aborda la manie de sa femme d'émettre... Donc, c'est dans le film, hein, parce que sa femme était décédée. D'émettre des flatulences lorsqu'elle était nerveuse et lorsqu'elle dormait. Et donc, même qu'une nuit, c'était tellement fort que le chien s'était réveillé. Et donc, cette blague comme fit quoi, mourir de rire l'amour. Matt Damon. Qui ne s'attendait pas à écouter cela. Et donc, le caméraman aussi rigola et il gâcha complètement la prise par ses tremblements. mais malgré tout, la scène fut conservée telle qu'elle dans le film. Donc, si on regarde bien, on voit la caméra bouger. Donc,
c'est très simple. C'est incroyable. Génial. Je l'ai gardé, c'est super. Voilà. D'accord. Et écoutez, moi, j'ai une toute petite anecdote que je vais vous raconter. Parce que je l'ai trouvée assez rigolote. Elle est très rapide. Mais est-ce que vous avez déjà regardé Charlie et la chocolaterie?
Oui.
J'espère que nos auditeurs aussi ont regardé.
Nous adorons tous quand même... le chocolat.
Exactement. Et donc, il y a une scène où Willy Wonka, donc le célèbre chocolatier, fait visiter sa chocolaterie donc, aux enfants. Et à un moment, on voit du coup que dans la chocolaterie, il y a, pour décortiquer les noisettes, des écureuils.
Okay.
Et donc, la question est comment ils ont pu faire apparaître des écureuils. Donc, je rappelle qu'il y a quand même des centaines d'écureuils dans la scène qui durent à peu près 2 minutes. Donc, comment ils ont fait pour faire des écureuils, sachant que ce ne sont pas des vrais écureuils?
Ils ont fait un montage, ils ont pris des écureuils, genre de la nature qui décortiquaient, après ils ont fait un...
C'est pas des vrais écureuils, tu dis?
Non, c'est donc, pas des vrais écureuils.
C'est pas des vrais?
Non.
Ah,
des écureuils mécaniques, comme ouais, dans les oiseaux, peut-être?
Non.
Bah, ouais. Des images de synthèse. Bon, c'était peut-être pas trop.
Ouais. Et non, et bien écoutez, ils ont fait un gros investissement, puisqu'ils ont pris plus de 400 personnes, 400 figurants, qu'ils ont mis à quatre pattes pour jouer les écureuils. Et donc, ça a été très cher. Après, ça a été très bien réalisé, mais pour une scène qui dure moins de 2 minutes. En comptant évidemment la danse des Loompa Loompa, ça a été un gros investissement et j'ai trouvé ça assez rigolo qu'ils aient pris autant de personnes pour jouer des écureuils.
Ça a dû être très drôle sur le temps.
Ouais, voilà. Okay. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça fait extrêmement plaisir. On accueille tout de suite du coup le troisième groupe d'étudiants de UIT Talk. Qui vont vous parler d'un sujet un peu plus sérieux, électrique et les moteurs de voitures, qui est un débat assez dans le temps et d'actualité. Et on vous remercie pour nous avoir écoutés. Bonne journée.